Merci beaucoup. Je suis un mauvais frontalier, je suis désolé, je n'ai pas de monde, donc ne croyez pas que je regarde mes emails, mais je contrôle l'heure. D'accord, merci. Je ne m'inscrirai certes pas de manière polémique ou conflictuelle par rapport aux propos de Bernard de Barbieux, que j'ai beaucoup apprécié, et je crois qu'on a énormément de convergences, même si effectivement des nuances d'interprétation ou d'analyse peuvent survenir, essentiellement parce que nous n'avons pas exactement la même formation, la même discipline, si on peut dire. Bon, je crois que votre propos a bien montré que vous ne nous enfermiez pas non plus dans une cage ou dans une illusion disciplinaire, mais enfin disons que notre point de départ en termes de sciences sociales n'est pas exactement le même. Je viens pour ma part de la sociologie historique et comparée du politique. J'ai en effet beaucoup travaillé, comme vous l'avez rappelé, sur les sociétés subsahariennes, mais également sur des sociétés comme la Turquie, l'Iran, dans une moindre mesure, disons l'ensemble du bassin méditerranéen, mais toujours dans cette perspective de sociologie historique et comparée du politique, et en développant effectivement en essayant de concocter des paradigmes, par exemple dans le gouvernement du monde, mais également dans l'illusion identitaire, qui je crois est un titre également utile par rapport à vos débats depuis 2 ou 3 jours. Alors, peut-être avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais introduire, mais rassurez-vous très brièvement, 2 éléments de méthode, puisque si j'ai bien compris, je m'adresse surtout à des philosophes, et je crois qu'ils sont importants pour préciser la manière dont j'appréhende, on va dire, l'idée nationale, pour aller vite. Le premier élément de méthode, il vous est très familier, puisqu'il a été très largement développé à la bonne ville de Genève, c'est la problématique de l'énonciation. Je crois que nous ne pouvons avoir des phénomènes politiques, phénomènes de l'identité nationale, ou aussi bien d'ailleurs phénomènes du territoire, qu'une appréhension énonciative, au sens où l'entendait Saussure dans ses travaux de linguistique, ou encore Wittgenstein, ou la philosophie pragmatique, analytique britannique. Bon, vous êtes beaucoup plus compétent que moi sur tous ces domaines. L'idée, elle est très simple, c'est que de même qu'une œuvre littéraire ou musicale n'existe que par la manière dont certes elle a été composée, écrite, dans la manière dont elle est éventuellement interprétée, mais également dans la manière dont elle est reçue, hein, eh bien les phénomènes politiques sont très largement produits par le bas, par la manière dont ils sont reçus, dont ils sont appropriés, éventuellement récusés par l'ensemble des sujets ou des citoyens. Et cela vaut, bien entendu, et là je rejoins tout à fait ce que vous disiez sur la polysémie de l'idée nationale. L'idée nationale, ce ne sont pas simplement les politiques publiques ou les grandes idéologies des théoriciens du nationalisme, c'est la manière dont monsieur ou madame tout le monde s'en approprie s'approprie cette idée pour le meilleur et pour le pire. Donc, premier point, la problématique de l'énonciation, qui vaut pour l'idée d'identité. Des identités n'existent pas. C'est ce qui existe, donc l'identité comme essence n'existe pas, et là aussi je me référerai à un philosophe, Gilles Deleuze. Moi j'aime beaucoup cette distinction que fait Deleuze, ce qu'il dit, le concept, il doit dire l'événement et non pas l'essence. Bon. Donc ce qui compte dans l'identité, c'est pas l'essence, c'est l'événement, et cet événement c'est l'identification. Et on voit bien que nous avons tous plusieurs manières de nous identifier. On peut s'identifier effectivement sur un plan national, mais simultanément, ou dans une logique de durée extrêmement ramassée, comme ouvrier, comme professeur. Et quand on va chez le dentiste, on s'identifie d'abord à la condition de patient, et évidemment toutes nos identifications nationales ou professionnelles professionnelles sont remises au second plan. Bon. Le deuxième élément de méthode que je voudrais introduire et qui me semble-t-il peut-être intéressant pour vous en tant que philosophe, parce que je crois que vous avez beaucoup à apporter aux problématiques du politique, c'est le concept de durée au sens où l'entend Bergson. Et ça, je crois que c'est extrêmement important parce que nous vivons tous et nous devons donc analyser nos sociétés dans des situations d'imbrication de durée, toujours au sens où l'entend Bergson hein, quand il oppose temps et durée. Hein, donc le temps, conception quantitative, renvoyant d'ailleurs à l'espace, et la durée, conception, disons, plus qualitative. Bon. Nous vivons tous dans l'imbrication, dans des situations d'imbrication de durée. Et je crois que c'est extrêmement important justement pour réfléchir sur ce sur quoi vous avez attiré notre attention, le postisme, bon, avec un brin d'ironie que je partage volontiers, parce que j'ai également écrit un petit livre, Les études postcoloniales, un carnaval académique. Et cette question, par exemple, de l'esclavage ou du colonial est très intéressante, parce que on peut effectivement considérer que les sociétés africaines, ou aussi bien les sociétés anciennement métropolitaines, sont des sociétés postcoloniales, colonial au sens où l'utilise les tenants des études postcoloniales, parce qu'elles restent habitées par cette conscience ou cette mémoire historique de la colonisation ou aussi bien de l'esclavage. La vraie question que nous pose Bergson, c'est de savoir si nous devons nous en tenir et être prisonniers d'un phénomène de fausse reconnaissance, c'est-à-dire si notre conscience du présent et de l'avenir doit être hantée et distordue par ce phénomène de fausse reconnaissance qui nous fait vivre l'esclavage ou la colonisation sur le mode du présent. Bon. Mais c'est un autre débat. Ce qui compte, c'est de bien voir que quand nous travaillons, par exemple, sur une société africaine contemporaine, nous devons effectivement tenir compte de cette histoire de longue durée de l'esclavage, qui est une histoire extraordinairement complexe, et dans laquelle s'imbrique la mémoire historique du colonial, du fait colonial, qui reste très présent pour toute une série de raisons, y compris parce que l'idée nationale est à bien des égards un surjon, un rejet, une continuation de l'hégémonie coloniale. Hein, l'idée de nation est un produit du moment colonial, en même temps qu'il est revendication d'un recouvrement de la souveraineté des sociétés, en l'occurrence africaines. Et puis, nous devons bien entendu tenir compte de ce que l'on va qualifier de post-colonial, mais sur un plan strictement chronologique, c'est-à-dire ce qui vient avec les indépendances et après les indépendances, moment post-colonial, qui est lui aussi extraordinairement complexe, parce que maintenant, nous avons grosso modo à la louche 50 ans d'indépendance, et ces 50 ans d'indépendance, ça a été 50 ans d'histoire, avec des successions de régimes, des événements très complexes, etc. Donc il y a aussi une historicité de l'après-colonial qui est très riche. Et ce qui est très important, si vous voulez, c'est de comprendre les sociétés contemporaines comme cette espèce d'imbrication de durée au sens bergsonien, avec éventuellement ces effets de fausse reconnaissance, de mémoire du présent. Bon. Donc ça sont deux points de méthode, je n'insiste pas, on pourra y revenir, mais qui vous permettront peut-être de mieux saisir la manière dont j'appréhende ce qui nous occupe ce matin et ces jours-ci. Alors, premier élément de ma thèse, qui est à la fois en résonance avec ce que vous avez développé, peut-être en nuance, c'est que j'ai essayé de définir par national-libéralisme une séquence de globalisation qui ne correspond pas exactement à la périodisation que mes collègues, notamment spécialistes des relations internationales, retiennent pour appréhender, pour circonscrire la globalisation. Bon, la globalisation, c'est un terme qui, évidemment, est très très contestable. Bon. Et au fond, l'humanité n'a pas cessé de se globaliser. Bon, si on se retourne vers Jaspers, vers ce qu'il définissait comme les religions axiales, bon, bah, ce sont des phénomènes de globalisation. L'universalisme des monothéismes ont produit de la globalisation, et l'islam, d'ailleurs, en est un très très bel exemple. Bon. Donc, notre propos, en tant que spécialiste de sciences sociales, c'est de construire un objet, et moi, j'ai construit ma petite globalisation de la fin du 18e, donc le long 19e siècle de Hobsbawm, le court 20e siècle toujours de Hobsbawm, et puis ensuite, ce qu'on pourrait dire, la période néolibérale. Alors là, d'ailleurs, ce qu'on appelle généralement la globalisation, et là, d'ailleurs, vous avez des différences de périodisation, vous avez des théoriciens des relations internationales qui vont mettre l'accent sur la chute du mur de Berlin en 1989, vous avez d'autres théoriciens des relations internationales plutôt en économie politique qui vont retenir l'arrivée au pouvoir de Thatcher et de Reagan et l'avènement du néolibéralisme, puis vous avez d'autres théoriciens des relations internationales un peu plus classiques, un peu plus racistes, qui vont dire ah ben le véritable moment de la globalisation au fond c'est Hiroshima, c'est-à-dire une unification du monde sous le champignon nucléaire, qui est quelque chose de complètement inédit par rapport à, puisque maintenant on a la capacité appréciable d'autodétruire notre planète. Bon. Peu importe. Moi je dis que en réalité nous ne sommes pas sortis du 19e siècle et que nous vivons dans un moment spécifique, il y a une historicité propre de globalisation je conceptualise en termes de national-libéralisme, et je serai plus précis. Alors, j'utilise ce terme de national-libéralisme de deux manières que je dois distinguer. La première manière, c'est une manière polémique que j'assume complètement en disant que le national-libéralisme est au libéralisme ce que le national-socialisme était au socialisme. Bon. Et en rappelant effectivement que c'est le libéralisme pour les riches et le nationalisme pour les pauvres. Donc ce sont des personnages, c'est une combinatoire qui incarne parfaitement des personnages dans leur diversité, comme Sarkozy en France, peut-être Blocher en Suisse, mais bon, je ne connais pas suffisamment le paysage politique suisse pour être affirmatif, Erdogan en Turquie, Poutine. Donc vous avez, c'est comme l'art du cocktail, si vous voulez, vous mettez un peu plus de national ou un peu plus de libéralisme, vous avez des boissons titrés de manière différente, mais grosso modo, tous ces personnages surfent sur l'ambivalence de cet alliage national-libéral. Et également sur le brouillage systématique du public et du privé, et ça c'est extrêmement important, et répondre, si vous voulez, à la philosophie de la chauve-souris, voyez mes ailes, je suis oiseau, voyez mon corps, je suis mammifère. Bon. Ça c'est l'usage polémique. Mais cet usage polémique m'est venu d'une réflexion plus scientifique, Inch'Allah, notamment dans le gouvernement du monde, dans l'illusion identitaire, où au fond, de manière assez pragmatique, assez empirique, je me suis dit que notre manière d'appréhender la globalisation reposait sur un double contresens. Double contresens que l'on retrouve un peu, j'ai oublié la chose, non je l'ai ici, que l'on retrouve un peu dans la programmation, dans l'énoncé de vos journées, mais avec un élément de distanciation critique et de mise en doute. Le premier contresens, c'est de dire qu'il y a un jeu à somme nulle entre l'État-nation, ou l'État, y compris dans sa souveraineté, et la globalisation. Et d'une certaine manière, c'est par rapport à cela que vous êtes situé, et c'est sans doute par rapport à cela que nous allons avoir une dissonance d'analyse, mais qui n'a rien de polémique, sans doute parce qu'on vient d'objets différents. Donc ça me semble-t-il, et je serai plus précis, c'est un premier contresens. Le deuxième contresens, c'est de penser que la globalisation vient d'ailleurs. Bon, et plutôt de l'Ouest, évidemment, plutôt des méchants États-Unis. Bon. Et que nous sommes, au fond, les victimes ou les sujets passifs de la globalisation, alors que pour moi, je pensais intituler mon ouvrage « Le gouvernement du monde » de la manière suivante, « Globalement vôtre ». Bon, puis l'éditeur m'a dit « Non, c'est quand même un peu cheap, il faut un truc plus sérieux. Bon. » Mais ce que je veux dire par là, c'est que nous produisons nous-mêmes la globalisation. Si je fais une perquisition amicale chez un certain nombre d'entre vous altermondialistes, je crains de retrouver des choses très compromettantes pour vous, des blue jeans américains, des motos japonaises ou des wifi japonaises et qui sait, des mets africains ou latino-américains. Bon. Donc nous produisons tous la globalisation par nos pratiques. Et y compris d'ailleurs nos pratiques corporelles, c'est-à-dire nous incorporons la globalisation. Si nous marchons avec ces abominables Nikes ou des chaussures de ville ou pieds nus, nous ne marcherons pas de la même manière. Notre corps va se mettre en branle de manière différente. Bon. Donc, c'est ce en quoi la globalisation est une forme de servitude volontaire, hein, où une gouvernementalité au sens de Foucault, c'est-à-dire au point de rencontre entre les techniques de domination, y compris des techniques de domination stato-nationale, et des techniques du corps, des techniques du soi qui sont également des techniques du corps. Donc la globalisation, ce que nous appelons la globalisation, le gouvernement du monde, et c'est à dessein que j'avais repris cette connotation foucauldienne dans le titre, une fois que j'ai dû en changer, le gouvernement du monde est une gouvernementalité au sens de Foucault, c'est-à-dire au point de rencontre des techniques de domination et des techniques du soi. Bon, ce sont les deux points à la lumière des deux points de méthode que j'ai évoqués, j'ai commencé à réfléchir à la globalisation un peu sous la forme d'un défi, parce que moi je suis plutôt associé dans le paysage universitaire à la sociologie historique de l'État. Mon fil rouge a été toujours d'essayer de comprendre l'historicité propre de l'État, y compris dans des situations, on va dire, non occidentales pour aller vite, ou en Afrique, ou continent supposé être sans histoire. Donc j'ai essayé de montrer que si, il y avait une historicité de l'État en Afrique. Et le gouvernement du monde, mon livre, c'était un peu une espèce de joke, disons. Au fond, que peut dire d'un moment historique supposé détruire ou affaiblir l'État, un spécialiste de l'État ? Donc, je commençais à réfléchir à cette chose, et là je me suis aperçu, c'est mon diagnostic, mon analyse, qu'il n'y avait pas un jeu à somme nulle entre la globalisation et la formation de l'État, et que l'État, bien loin d'être la victime de la globalisation, en était le produit. Donc ma thèse va un peu à rebours de l'idée générale. Nous avons en réalité une combinatoire entre ce que l'on appelle la globalisation, qui en soi est un phénomène complexe, parce que c'est, on va dire, l'expansion mondiale du capitalisme, bon. Mais aussi, et sans que ceci soit réductible à cela, l'universalisation d'une certaine civilisation matérielle, d'une certaine connaissance, de phénomènes religieux, etc. Bon, aujourd'hui, je crois qu'il n'y a plus un seul marxiste qui défendrait la thèse selon laquelle tous ces phénomènes, entre guillemets, superstructurels, sont réductibles à la logique du seul mode de production capitaliste. Donc on a une globalisation, une mondialisation, qui est à la fois expansion mondiale du mode de production capitaliste et universalisation d'un certain nombre de phénomènes culturels, scientifiques, éventuellement climatiques, etc. Puis on voit bien que l'interaction entre le capitalisme et ces phénomènes n'est pas inexistante, elle est réelle, mais évidemment qu'elle ne répond pas au marxisme que le philosophe français Michel Henry définissait comme la somme des contresens sur la pensée de Marx. Bon. Donc ça, c'est un premier point. Et deuxième point, de manière concomitante, nous avons l'universalisation de l'État-nation comme mode d'organisation. Alors, évidemment, je suis arrivé à cette conclusion un peu paradoxale par le biais de l'Afrique, parce qu'en Afrique, vous voyez très bien comment, simultanément, il y a eu l'intégration du continent africain à l'économie mondiale et l'implantation, l'invention sur le continent africain de territoires qui très rapidement vont devenir des territoires nationaux. La thèse de Benedict Anderson, et moi empiriquement je la valide, étant que dès la colonisation, il y a une nationalisation du territoire par le biais d'un nationalisme colonial. Les colons, par exemple, et voire les administrateurs des colonies, opposant une espèce de patriotisme territorial par rapport à la bêtise du ministère des colonies, de la métropole qui comprend rien, etc. Donc très rapidement, il y a une espèce de nationalisation du territoire colonial, et puis bien entendu, par le biais des indépendances, du mouvement nationaliste des indépendances, il y a une appropriation de ce cadre territorial et une nationalisation de ce cadre territorial par les Africains eux-mêmes. Bon. Et de ce point de vue, effectivement, je crois que le nationalisme est un produit dérivé de l'hégémonie coloniale. Vous savez que c'est un grand débat parmi les historiens subalternistes indianistes. Vous aviez, certains de ces historiens, notamment le fondateur de cette approche, Goura, disaient que la colonisation, c'était la domination sans hégémonie. Et d'autres, comme Chatterjee, disaient s'il y avait hégémonie et le nationalisme et la continuation de l'hégémonie coloniale. Et je crois à la réflexion, j'ai beaucoup hésité sur ce point, mais je pense à la réflexion que Chatterjee a plutôt raison par rapport à Goura. Bon. Alors, le cas africain est intéressant parce qu'on voit cette synergie entre l'inclusion dans l'économie capitaliste de l'Afrique subsaharienne et sa constitution en territoire qui vont bientôt devenir des territoires nationaux. Mais si vous regardez par exemple le printemps des peuples en Europe 1848, c'est simultanément l'éclosion ou l'explosion, enfin l'épanouissement de l'idée nationale et le triomphe du libre-échange, du télégraphe sous-marin, qui va avoir des conséquences extraordinaires pour la globalisation. Les gens à Calcutta vont pouvoir suivre quasiment en temps réel, comme on dit aujourd'hui, les résultats du derby en Angleterre, etc. etc. Bon, donc les deux vont ensemble. Si on vient dans la période immédiatement, ou à peu près immédiatement contemporaine, l'Empire soviétique ne se dissout pas dans le marché. Il se convertit au capitalisme, plus qu'à l'économie de marché, mais simultanément, l'Empire soviétique donne naissance à un système d'État-nation et à un nationalisme extrêmement vigoureux, ou un national-libéralisme, pour reprendre mon terme très viril, en la personne, par exemple, de Vladimir Poutine. Le cas de la Yougoslavie est très intéressant également. La Yougoslavie s'effondre et en même temps qu'elle se convertit au capitalisme et qu'elle rêve d'Europe capitaliste, elle donne naissance à un système d'État-nation qui, de manière tragique évidemment, est dominé par le nationalisme. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est de voir que dans les années 90-93, l'enclenchement de la guerre civile, on voit les partis socialistes héritiers, différents partis socialistes des républiques yougoslaves, héritiers de l'idée titiste, enfin de l'idée socialiste autogestionnaire, etc., défendre un welfare state, continuer à défendre une forme de welfare state, et sur un mode tout à fait modéré sur le plan nationaliste, et les véritables partis nationalistes qui finalement vont déclencher la guerre civile ou la guerre internationale sont des partis qui se réclament d'un libéralisme effréné. Donc vous avez dans ces partis nationalistes l'association entre l'idéologie et la mobilisation nationaliste, y compris sur un mode militariste, et l'adhésion au néolibéralisme. Bon. Donc on pourrait multiplier des exemples de ce genre. Je pense que l'évidence des faits nous amène non pas opposer globalisation et État-nation, mais à voir que l'universalisation de l'État-nation comme forme légitime d'organisation politique est une facette de la globalisation. Alors, me direz-vous, et c'est un petit peu votre objection, cet État, quand même, est un État qui perd certaines de ses prérogatives. Je nuancerai la chose parce que, d'abord, nous sommes victimes d'une illusion d'optique. L'État fort et le welfare state ne correspond qu'à une période extrêmement limitée de l'histoire de l'État-nation, c'est-à-dire la période, grosso modo, du New Deal et de la sociale des démocraties. Bon, on pourrait évidemment, il y a des chronologies un petit peu différentes suivant les situations, mais l'État-nation qui s'universalise progressivement au XIXe siècle et jusqu'à la crise de 1929 est un État libéral et qui, à bien des égards, est inféodé ou en tout cas imbriqué avec des intérêts privés. Bon, il y a un exemple qui est assez peu connu, mais qui est très cocasse, c'est que pendant 30 ou 40 ans, ou j'exagère peut-être, pendant 20 ans, enfin, mais à un moment tout à fait crucial au début du XXe siècle, le directeur des affaires asiatiques au Quai d'Orsay en France était le frère du directeur de la Banque d'Indochine. Bon, ce qui facilitait quand même effectivement le partenariat public-privé. Bon. Donc on a, et on sait bien, un autre exemple, c'est le système bancaire européen, les Rothschild, etc., qui ont négocié les conditions financières des indemnités de guerre de la France à l'Allemagne en 1870-71 à Versailles. Bon, donc vous aviez l'État-nation du XIXe siècle est un État libéral et très largement privatisé. Bon. Alors, ce à quoi nous assistons aujourd'hui, c'est effectivement avec le néolibéralisme à une reprivatisation de l'État, notamment par l'intermédiaire des PPI ou des PPI, le partenariat public-privé. Mais est-ce que cet État devient plus faible pour autant? Moi, je n'en suis pas sûr. D'abord parce que c'est cet État qui délègue, privatise certaines de ses prérogatives. Et d'autre part, parce que la privatisation de l'État va de pair avec la réinvention d'une forme d'absolutisme politique et d'absolutisme policier. Je vais en prendre deux exemples précis. Les États européens, et en tout cas la France, ont annulé le droit constitutionnel d'asile, tel qu'il est reconnu par le préambule de la Constitution, puis toute une série de traités internationaux, en privatisant la fonction régalienne de contrôle des titres de séjour au bénéfice de compagnies aériennes privées. Donc en même temps que vous avez eu la privatisation d'Air France, par exemple, je continue à garder des exemples français qui me sont plus familiers, donc vous avez eu privatisation d'Air France, mais en même temps, Air France se voit attribuer, elle en demandait d'ailleurs peut-être pas tant, mais de toute façon, si elle n'exerce pas cette fonction, elle est soumise à des amendes qui sont très élevées et est obligée de renvoyer les gens à ses propres frais. Donc Air France doit contrôler à l'embarquement les titres de séjour, ce qui, de facto, annule le droit d'asile. Bon. S'il y a 10 ans, on avait annulé le droit d'asile constitutionnellement, il y a eu quand même un certain nombre de gens dans les rues de France et de Navarre. Là, ça s'est fait sans tambour ni trompette. De la même manière, la privatisation de la guerre par les États-Unis a permis à la Maison-Blanche et au Pentagone de court-circuiter le contrôle parlementaire du Congrès. Et donc on a un État très largement privatisé qui effectivement renonce au moins en trompe-l'œil à certaines de ses prérogatives de souveraineté, mais qui en réalité développe une nouvelle forme d'absolutisme. Et cela est vrai dans le domaine financier. La libéralisation, la dérégulation massive du système financier à l'initiative des États, le Big Bang de la City dans les années 80 par Margaret Thatcher, va de pair avec un renforcement des contrôles policiers, des services secrets, pour dire les choses brièvement, sur la circulation des capitaux. Et ça n'est pas simplement en termes de lutte contre le terrorisme, c'est en termes de lutte contre l'évasion fiscale, etc. Et là, pour le coup, en Suisse, vous êtes bien placé pour le voir. Donc vous avez eu simultanément dérégulation du marché financier et renforcement des prérogatives des États sur le marché des capitaux, bien au-delà de ce que pouvaient espérer ou redouter, suivant leurs orientations politiques, les citoyens helvètes, par exemple. Bon. Donc je crois que aujourd'hui... Pardon ?
Vous
J'ai déjà épuisé mon temps de parole, c'est effrayant. Donc, d'accord. Donc, mais cela étant, c'est un petit peu le cœur de mon raisonnement. Et ça nous renvoie d'ailleurs à une figure historique très, très, très classique. L'État absolutiste français était un État très largement privatisé qui exerçait ses prérogatives fiscales ou les fournitures aux armées par le biais des fermiers généraux. Bon. Alors, pour conclure, deux points. Je crois qu'aujourd'hui, l'exacerbation des problématiques identitaires dans l'arène politique est le produit paradoxal de cette combinatoire entre la globalisation capitaliste, pour aller vite, et l'universalisation de l'État-nation. Et la véritable idéologie de cette combinatoire, c'est le culturalisme, c'est-à-dire la réification des cultures et la généralisation du raisonnement culturaliste. C'est-à-dire que l'idée, l'illusion que les gens agissent en étant prédéterminés, presque une idée de prédestination culturelle, en étant prédéterminés par, entre guillemets, leur culture ou leur identité. Donc vous êtes musulman, vous battez votre femme, vous êtes chinois, vous adorez les supplices, vous êtes français, vous êtes naturellement laïque. Bon. Donc il y a une espèce de naturalisation et de réification des identités culturelles. Et je crois que paradoxalement, le culturalisme, avec l'exaltation de cette idée de l'identité ethnique, de l'autochtonie, etc., le culturalisme est la véritable idéologie de la globalisation telle que je l'ai définie. Vous en avez des versions tout à fait bénignes, ça peut être l'idée nationale, mais ça peut être aussi la gastronomie de terroir. Vous savez que les 300 et quelques fromages dont s'enorgueillisse la France sont un produit non pas du génie naturel de la paysannerie française, mais de l'unification du marché français au sens capitaliste du terme. Le Livaro, le Camembert sont des enfants, non pas de la Normanditude, comme dirait Ségolène Royal, mais de la ligne de chemin de fer Paris-Deauville, qui a permis à ces paysans d'apporter leur fromage, donc en faisant un minimum de marketing sur les Halles de Paris. Bon. Donc ça, c'est la version plutôt savoureuse et agréable, que l'on retrouve aujourd'hui avec la mode du bio. Mais évidemment, vous en avez des versions beaucoup plus problématiques. Et aujourd'hui, nous sommes dans le problème en Europe. Et la deuxième idée qui fait écho à ce que vous développiez, La deuxième idée que je voulais livrer à la discussion, c'est que, au fond, et je suis entièrement d'accord avec vous sur ce balancement entre les deux conceptions de la nation. Il n'y a pas une succession ou il n'y a pas une alternative, enfin au sens français du terme. Il y a un balancement, une hésitation, une imbrication entre la définition civique et la définition ethnique. Mais si l'on regarde historiquement cette séquence des 19e, 21e siècle, ce à quoi nous assistons, c'est un effondrement, au fond, d'un monde d'empire et au remplacement des empires par ce système universel d'État-nation. Bon. Je ne cherche pas du tout à idéaliser les empires. Les empires sont des formations de domination politique. Bon, il ne s'agit pas du tout d'avoir l'Empire des Habsbourg ou l'Empire ottoman, une idée romantique, bon, un peu triestine, comme ça. Bon. Non, ce sont des systèmes de domination et d'exploitation. Mais ce sont des gouvernements de la diversité. Bon, l'Empire ottoman, n'en déplaise aux nationalistes grecs ou balkaniques, l'Empire ottoman a gouverné les Balkans par l'intermédiaire de l'Église orthodoxe, qui a été une grande bénéficiaire de l'occupation, enfin de l'Empire ottoman. Et c'est bel et bien l'Empire ottoman qui a défendu l'Église orthodoxe contre les papistes de Rome. Bon. Et l'Empire ottoman a été accueilli comme un libérateur dans les territoires, notamment vénitiens, qui étaient occupés par une domination catholique. Bon. Donc un empire domine en gérant la diversité. Et il a donné naissance, dans les convulsions que nous connaissons, des États-nations qui se sont réclamés, historiquement, au moins dans cette partie du monde, d'une définition ethno-confessionnelle de la citoyenneté par invention de la tradition. Donc, on sait bien, je pense que Anne-Marie Thiès vous en a parlé à l'ouverture de votre réunion, on sait bien comment il y a eu création des identités nationales par invention de culture populaire, voire invention de peuple, et la Turquie en est un très très bel exemple. Et l'ingénierie politique de ce passage de l'Empire à l'État-nation, c'était la purification ethnique. Alors, la purification ethnique, vous avez les virtuoses de la purification ethnique, ce sont les jeunes Turcs avec les Arméniens, ou les nazis avec les Juifs. Et vous savez que la droite nationaliste allemande, et notamment les nazis, étaient éblouis par Kemal Atatürk, qui a été le premier à mener une guerre victorieuse de révision des traités du traité de Versailles et des traités, mais qui également bénéficiait d'une situation qu'il n'avait pas créée, mais dont il était l'heureux usager, qui était la purification ethnique de l'Anatolie de ces Arméniens. Et on a des signes très, très clairs. Enfin, il y a des travaux qui ont été développés qui montrent que Hitler était tout à fait bluffé par l'expérience kémaliste et par l'expérience turque. Bon. Vous avez la purification violente qui cherche non pas à tuer les gens mais à les faire partir. Donc c'est la purification ethnique en Yougoslavie. Bon, alors, il faut en tuer un minimum pour les faire partir et pour rendre la coexistence impossible. Vous avez la purification ethnique par assimilation culturelle. Donc c'est ce que les Turcs ont fait avec les Kurdes, grosso modo. Ils en ont tué, mais l'objet n'était pas de les tuer, mais de les turquifier. Bon, et vous avez eu des chefs d'état-major en Turquie qui étaient kurdes. Ce n'est pas un problème. Du moment qu'ils oubliaient qu'ils étaient kurdes, il n'y avait aucun problème. Et on voit bien comment, par exemple, tout cet ensemble repose sur ce processus de purification ethnique, y compris, bien entendu, Israël. Israël est un pur produit de ce passage d'un monde d'empire à un monde d'État-nation. Bon. Mais l'Europe elle-même est née de cette histoire. On oublie que l'Union européenne, et ses immédiats prédécesseurs, a reposé sur une gigantesque opération de purification ethnique qui a été le transfert, la déportation des Allemands de l'Europe centrale, de l'Europe de l'Est, avec la bénédiction de Winston Churchill et de Franklin Roosevelt, et qui était une opération de purification ethnique. C'est-à-dire qu'on a considéré qu'à partir du moment où ces gens étaient allemands, ils étaient responsables de la Shoah, ils étaient national-socialistes, ce qui est un phénomène d'assignation identitaire tout à fait extraordinaire. Bon. Donc vous voyez que, au fond, ce à quoi aujourd'hui nous sommes confrontés en Europe avec la montée des partis identitaristes, c'est bel et bien à cette espèce de réactivation d'une logique de purification ethnique qui malheureusement est au cœur de ce processus de passage d'un monde d'empire à un monde d'État-nation. Et on voit très bien, j'arrête, et on voit très bien comment nous sommes dans ce balancement que vous évoquiez, où il y a véritablement alors une alternative au sens d'un choix. Et on voit bien comment les partis politiques, comment la plupart des hommes politiques hésitent par rapport à ça. Et la scène politique française est très révélatrice au sein même, par exemple, du Parti des Républicains, où un Alain Juppé et un Nicolas Sarkozy, membres du même parti, ne se positionnent pas du tout de la même manière par rapport à cette alternative. Voilà, je crois que cette définition de la globalisation déplace un petit peu les données du problème, tout en s'inscrivant dans la continuité de votre propos.
Je vais vous demander de rester assis là, puis je vous demande de vous asseoir à côté de Jean-François Bayard. Puis dans un premier temps, j'aimerais vous demander de réagir. Parce que, bon,
oui, d'une certaine manière, j'ai réagi.
Il a intégré un certain nombre de réactions à votre propos. Comment vous réagissez à son propos? Puis après, on donne la parole à la salle.
Alors, sur le point principal, l'objection principale que vous faisiez par rapport à mes propositions, les organisateurs du colloque, s'ils voulaient susciter de la polémique, vont être déçus parce que je suis probablement responsable des ambiguïtés que vous avez pris pour des assertions de ma part. Je vous rappelle, parce que je crois l'avoir dit quand même, que les trois catégories de postes nationales que j'ai distinguées, ce ne sont pas simplement des choses dans lesquelles je crois moi-même, c'est simplement des auteurs qui invoquent le caractère post-national de quelque chose, et notamment la première catégorie, je m'en défie énormément. Donc l'idée qu'on puisse être dans un monde post-national parce qu'il y aurait un affaiblissement des États-nations, c'est pas mon analyse et c'est pas ma thèse. Mais c'est vrai que j'ai pas développé ma thèse là-dessus, donc vous pouviez évidemment tout à fait légitimement rebondir sur ce point-là. Ceci dit, là quand même, où il y a peut-être une différence d'appréciation significative entre vous et moi, c'est que ce que j'identifie moi en termes d'affaiblissement des États-nations, c'est pas les États-nations en tant que telles, c'est les États-nations construit et conçu à partir d'une matrice territoriale. C'est-à-dire que le territoire comme étant la matrice qui permet à la fois de fonder, légitimer l'État, de fonder et de légitimer la nation, et le cas échéant de subordonner toute une série d'activités dans le monde de, je sais pas quoi, l'échange des idées, la production économique. Et là, je crois qu'il y a une inflexion qui est en train de se produire. Les États-nations se portent très très bien, sont encore et peut-être de plus en plus les acteurs du monde moderne et de la géopolitique contemporaine, mais probablement de moins en moins fait de cette matrice territoriale qui avait été fondatrice au XVIIIe siècle.
Est-ce que vous voulez répondre en deux mots à cette observation ? Vous êtes d'accord ou...
Oui, non, mais encore une fois, je crois qu'il y a beaucoup plus de lignes de convergence. Mais effectivement, ce rappel est important et je vais y réfléchir. Mais je crois qu'il y a beaucoup plus de lignes de convergence. Alors moi également peut-être alors un autre plan justement sur cette notion de territoire. J'ai beaucoup apprécié ce que vous disiez enfin du territoire qui effectivement on peut en avoir une définition exclusive enfin en termes de à la fois d'inclusion mais de par exclusion de l'autre et par définition pourtant un territoire c'est un lieu de circulation et c'est un lieu d'ouverture. Bon, et on peut d'ailleurs en dire autant de la notion de culture, c'est-à-dire que évidemment là où les identitaristes se trompent lourdement, c'est qu'ils considèrent que la culture c'est le soi, alors qu'il n'y a de culture que dans le rapport à l'autre. Bon, et c'est vrai notamment des appartenances religieuses. Tous les grands monothéismes qu'aujourd'hui on réifie sur un mode ethno-confessionnel, hein, la définition ethno-confessionnelle de la citoyenneté allant de pair avec la purification ethnique, toutes ces appartenances religieuses monothéistes, en réalité, participent à une logique, ce que je nomme d'extraversion culturelle, c'est d'appropriation de l'autre. L'islam est un rapport au judaïsme et au christianisme. Il est né comme cela. Et je crois que cette notion de territoire, à la fois comme lieu d'autodéfinition et comme lieu d'échange, de mobilité et d'ouverture, je l'ai rencontré en réfléchissant sur l'État en Afrique. Et j'ai beaucoup insisté sur l'historicité de terroir. Et j'ai été très sensible justement à votre insistance sur ce thème de l'historicité. C'est-à-dire que tous les terroirs ou tous les territoires dans lesquels nous inscrivons ont une historicité qui est, bien entendu, une historicité d'ouverture et de mobilité. Et je crois que les Alpes en sont un superbe exemple. Donc l'historicité de terroir, pour moi, du point de vue de la sociologie historique du politique, fait vraiment sens. Même si je suis moins familier que vous, discipline oblige, avec cette conceptualisation et cette problématisation du territoire.
En tout cas, je crois pouvoir vous remercier au nom de tous de vos conférences qui nous ont beaucoup, beaucoup stimulés. Maintenant, j'aimerais en effet ouvrir la discussion pour environ une vingtaine de minutes. Donc, la parole est à vous et quelqu'un la demande. Thierry Laos, c'est à toi.
Je veux juste intervenir sur la notion de territoire et plus que la notion, sa réalité. Bon, Charybde et Scylla, il y a deux catastrophes conceptuelles et réelles. C'est d'une part le communautarisme ou le culturalisme, cette espèce d'historicisme romantique ou post-romantique qui conduit en historicité à reconstruire des identités. Donc ce que vous venez de dire de l'ethnocentrisme qui reconstruit les monothéismes, c'est non seulement juste mais capital aujourd'hui. Donc charybde, communautarisme, repli. Par exemple, vous prenez François Julien, communautariste, et on a eu la chance d'avoir Jean-Daniel Billetter à Genève pour nous expliquer que les travaux de François Julien étaient politiquement problématiques. Donc communautarisme, identité, repli, etc. Constructivisme aussi, au niveau épistémologique, d'une part. Et puis cet horizon, vous avez parlé d'une citoyenneté planétaire en citant Morin et Michel Serres. C'est délicat, mais c'est un programme. Hein, une paix universelle terrienne. Bon. Donc on a Caribe des Silla parce que à titre individuel, on a des gros problèmes. J'ai juste une seule remarque. Donc pour l'instant, je dis juste que c'était fort bien. et que ça m'a beaucoup passionné parce que c'est assez rare que j'en compte des gens qui sont à la fois sympathiques et intelligents. Ben oui. Bon, remarque. Non, je vous flatte pas, je suis sincère. Si je vous aimais pas, je vous insulterais. Non, alors, une remarque sur l'État islamique. Parce que ma chérie est marocaine et la question de territoire, je commence à la comprendre en Suisse. Vous avez opposé, justement, c'est ça, Caribe des Silla. Puis il y a vos remarques qui sont empiriques au Canada. J'ai une petite tortue inuite. Ou bien les indigénistes, etc. Donc attention, juste sur une remarque, puisque vous étiez modeste, vous avez dit que vous n'étiez pas un spécialiste, moi non plus, mais une remarque. On a l'État-nation, État islamique d'une part, et puis vous avez bah, justement identité, nation, etc. Catastrophe. Programme, une catastrophe programmée, on la vit en ce moment. Puis de l'autre côté, vous avez l'Oumma, qui a l'air sympathique, qui ne l'est pas. Il y a des salafistes pas très loin d'ici, je ne peux pas les nommer. Tout près, je sais pas, quelques minutes. Oui. Et puis on sait qu'il y a une grille, ça, hein, Christophe, c'est égal. Qui vont prôner un universalisme musulman, mais justement ethnocentré. Et puis sur la question des femmes, catastrophe. Vous avez évoqué le burkini en passant, catastrophe. Alors, parce que il y a un tiers, c'est le sultanat, c'est le khalifa. Donc, on a trois types. Sur la question, bon, on a Deleuze, on a surtout mon maître Giorgio Agamben, Degener, vous voyez, puis Brossard, hein, etc. Les post-focaliens. On a trois types de fabrication de la communauté. On a un type état-nationaliste, c'est lié aux colonisations. Donc le second conférencier a dit de la colonisation, etc. C'est à mon avis exact si on prend les pays, cette fois-ci du Maghreb. Donc on a l'état-nationalisme, qu'il soit socialiste ou post-socialiste, colonisateur, néolibéral, on a des catastrophes. Et puis, on a l'empire, le sultan, le khalifa. Et on a un tiers qui est cette espèce de rêve. Donc, la fabrication de l'identité islamique, je dirais sur le plan mondial, mais je vais parler de la Suisse ou même de Lausanne, c'est très délicat. Ça s'individue. Dans le meilleur des cas, ça se micro-socialise. C'est ça que j'admire. Parce que sinon, on a affaire à des imaginaires historiques et politiques, et c'est ça qui arrive d'ici là, qui sont ou bien le repli identitaire, et ça c'est dramatique, parce que ça construit des identités. L'islam, je travaille sur le Coran et puis Kabbalah, hein. Alors quand vous dites qu'il n'y a pas l'islam, même dans le Coran, c'est immédiatement un rapport à l'autre, aux juifs, problématique, mais aux juifs et au christianisme. Mohammed n'est pas un exemple. Il est un prophète. Le vrai exemple est celui qui juge à la fin des temps, c'est Issa, c'est Jésus. Donc il faut travailler, c'est tout. Mais donc la question de l'identité sur-nationale ou territoriale, sur l'État, c'est justement un test fabuleux, ce qui est en train de se passer, hélas. Et puis tous les exemples empiriques aussi. Donc on a Caribe des Silla. Personnellement, j'espère... oui, cette remarque-là. Et comment... Oui, à mon avis, c'est des exemples empiriques et historiques. Comment échapper à un universalisme abstrait, et donc dominateur et impérial, capitaliste d'une part, et surtout, parce que ça, on l'a entendu depuis longtemps, mais surtout ma crainte, c'est, parce que j'ai de la famille juive, mais je ne suis pas juif, ma chérie est musulmane, je peux vous dire que c'est assez comique, mais beau, comment échapper à la captation identitaire dans laquelle on nous place y compris parce que la notion de beau territoire et puis la nutrition liée... Par exemple, je parlais avec Michel Vanni, quand vous me dites les Alpes, moi, c'est raser les Alpes qu'on voit la mer. Parce que je suis italien, ça me fait peur, ces murs. J'aime pas les montagnes. Donc j'ai peur du régional aussi. En fait, j'en sais rien. J'ai besoin d'exemples et de concrétude. Je pense que vous avez des étudiants qui ont fait des études empiriques, les indigénistes et puis au Canada. C'est ça qui me réjouit. Mmh. Il faut aller sur le terrain pour voir comment les gens vivent ensemble. Okay.
Merci beaucoup Thierry. Est-ce que ces remarques appellent un commentaire de votre part
C'est difficile parce que c'est proliférant, vous ouvrez plein de portes, et notamment dans des directions que je ne maîtrise absolument pas, donc je ne prendrai pas le risque de discuter avec vous plus précisément, notamment de l'État islamique et de sa territorialité. Je vais juste faire une petite remarque qui rebondit un peu sur la façon que vous avez eu de m'interpeller. Je ne voudrais pas qu'il y ait de malentendu sur la façon que j'ai d'invoquer la notion d'imaginaire. Je suis un petit peu loin de ce que vous avez dit pour l'essentiel, mais vous y avez fait référence quand même à un moment donné. Quand je parle d'imaginaire, ce n'est pas pour dire la fantaisie, le fantasque par rapport au réalisme pur et dur. L'imaginaire, il est structurant de toute partie sociale, et il est même instituant de nos pratiques sociales et des communautés en fait, auxquelles on appartient. Donc moi, ce qui paraît intéressant, c'est de voir comment on peut déplacer, justement, se débarrasser peut-être de cette opposition un peu binaire qui a quand même structuré la pensée occidentale pendant très longtemps, entre l'imaginaire et le réel, et essayer de comprendre comment cet imaginaire est actif et productif du réel. C'est tout. Mais je suis très loin de vos interpellations plus spécifiques.
Jean-François Bayard ?
Oui, accord complet avec vous sur l'imaginaire. Il est constitutif du réel. Moi, j'aime beaucoup la définition de Deleuze. L'imaginaire, c'est pas le contraire du réel, c'est l'indiscernabilité du réel et de l'irréel. Bon. Et on ne peut pas. Le politique participe pleinement de l'imaginaire. Ça, et bien entendu, on a pu parler de communauté imaginée à propos de la nation. Deuxième point, le cas de Daesh est extrêmement intéressant parce que on voit justement cette combinatoire entre l'universalisme, y compris l'universalisme du capitalisme, et l'État-nation, et on voit comment il n'y a pas de jeu à somme nulle. Daesh, qu'est-ce que Daesh ? Bon, Daesh, c'est le dernier avatar en date de ce fameux passage de l'Empire à l'État-nation. Ce qu'on appelle aujourd'hui l'Irak, sous l'Empire ottoman, c'était un territoire, un espace dans lequel coexistaient un certain nombre de provinces. Bon, l'Irak n'existait pas en tant que tel, et l'Irak, sociologiquement, historiquement, dans sa configuration actuelle, est le produit de deux moments importants. Le premier moment, ça a été la mise en valeur quasiment coloniale, parce que ça participait beaucoup de l'imaginaire justement colonial du 19e siècle, qui à l'époque était un imaginaire de progrès, c'est-à-dire que si on voulait être européen, progressiste, etc., il fallait être colonisateur. Donc l'Empire ottoman, à un moment donné, au milieu du 19e siècle, dans le contexte des Tanzimates, s'est pensé comme mettant en valeur, au sens colonial du terme, la province, ce qu'on appelle aujourd'hui l'Irak, notamment Bagdad, Bassora, etc. Bon. Et ce moment de mise en valeur quasiment coloniale de la part de l'Empire ottoman est d'ailleurs allé de pair avec l'arrivée sur les rives du Golfe d'un autre impérialisme qui était l'impérialisme britannique. Bon, et Bombay notamment était, ou d'une certaine manière New Delhi, étaient les deux grandes métropoles de ces espaces du Golfe. Bon. Et dans ce processus de centralisation du pouvoir politique et de mise en valeur de plus en plus capitaliste de l'espace irakien, une majorité d'Arabes s'est convertie au 19e siècle au chiisme. La conversion au chiisme est très récente en Irak. Bon. Et s'est convertie au chiisme en partie pour affirmer sa distanciation, une forme presque d'Eigensinn par rapport au pouvoir centralisateur et exploiteur des Ottomans. Bon. Et les Ottomans se sont de plus en plus appuyés sur ce qui restait d'élites sunnites, hein, mais qui devenaient des élites sunnites surexploitant désormais la majorité chiite sur un mode capitaliste avec une mise en dépendance de la force de travail, etc. Donc ça, c'est un premier moment. Le deuxième moment, c'était l'occupation britannique à la chute de l'Empire, de la chute de l'Empire ottoman, de la défaite militaire de l'Empire ottoman. Et les Britanniques ont reconduit, dans le cadre du mandat de la Société des Nations, la domination de l'élite minoritaire sunnite sur la majorité chiite. Bon. Et les Britanniques ont adopté un code de nationalité qui distingue entre deux catégories de citoyens irakiens. Vous avez la catégorie A, qui est d'ascendance ottomane, et la catégorie B, chiite, qui est, de manière par le biais d'une assignation identitaire, considérée comme d'origine persane. Bon. Alors que seule une minorité du clergé, effectivement, venue au XVIIIe siècle d'Iran, pouvait être considérée. Bon. Donc, vous avez cette domination ethno-confessionnelle qui s'est mise en place sous protectorat britannique dans le cadre de la Société des Nations, avec toute l'idéologie du droit des nationalités, etc., et qui a été reproduite par le parti basse de Saddam Hussein. Et Saddam Hussein a notamment fait de la purification ethnique à l'encontre des chiites en expédiant vers l'Iran des chiites irakiens qui n'avaient strictement rien à y faire par le pur produit. Lorsque les Américains renversent Saddam Hussein en 2003, ils vont déclasser cette élite sunnite bassiste qui va animer la résistance, bon, et qui va animer la résistance en établissant une alliance avec Al-Qaïda. L'effet paradoxal de l'intervention militaire qui visait prétendument à bouter en dehors d'Irak Al-Qaïda qui n'y était point implanté, ayant été de permettre l'implantation d'Al-Qaïda en Irak. Et cette alliance entre les bassistes prétendument laïcs et Al-Qaïda a été facilitée par le fait qu'à partir de 1993, Saddam Hussein avait redécouvert l'islam sunnite, enfin l'islam, pour légitimer le pouvoir. Pour relégitimer son pouvoir qui avait ébranlé, bien entendu, sa défaite lors de la guerre du Koweït en 1991. Bon. Donc, et Al-Qaïda, Daesh, donc Daesh est en fait une scission d'Al-Qaïda, Daesh est un pur produit de l'ingénierie militariste, laïciste de Saddam Hussein, par alliance. Bon. Donc, vous avez beaucoup de national et vous avez beaucoup d'ethno-national, de définition ethno-confessionnelle. Alors après, ce qui est intéressant, et j'arrête là, c'est la dimension Oumma et pan-arabe. Bon. Vous savez que le Baas, à l'origine, était un parti pan-arabe qui a été créé par un Syrien. Et ensuite, les Irakiens s'y sont mis. Mais le rêve pan-arabe, du pan-arabisme, n'a vécu que quelques années, à peine. Le Baas irakien et le Baas syrien sont devenus les meilleurs ennemis du monde. Bon. Moi, la question que je me pose, c'est de savoir si Daesh, qui aujourd'hui est uni par sa conquête, par sa confrontation et par le bombardement qu'il subit, ne va pas... parce qu'aujourd'hui, Daesh, vous avez une branche, vous avez trois branches. Vous avez la branche irakienne, il y a la branche syrienne qui est composée d'éléments du pouvoir d'Assad, qui se sont de sunnites, qui sont désolidarisés d'Assad après 2011, parce que trop, c'était quand même un peu trop, donc qui ont rejoint Daesh. Et puis vous avez les djihadistes bien de chez nous. Et ça, c'est une troisième composante de Daesh. Donc aujourd'hui, Daesh est uni essentiellement par sa conquête et la répression dont elle fait l'objet. Mais moi, je m'interroge beaucoup sur la survie de Daesh à l'avenir. Et je pense... Mais ça, j'ai une divergence d'analyse avec Luizard, Pierre-Jean Luizard. Et Pierre-Jean Luizard est un vrai spécialiste de la région, donc je crains qu'il n'ait raison. Mais moi, personnellement, je ne suis pas certain que ce projet de califat poste ou supranational résistera à l'épreuve des faits. Et je pense que, tout comme les partis islamistes des années 80-90, la logique statonationale prévaudra. Et je pense que Daesh, qui continue à percevoir des droits de douane à l'intérieur du territoire qu'il contrôle entre l'Irak et la Syrie, que Daesh reste dominé par l'habitus national. Mais ça, c'est mon hypothèse de travail. Encore une fois, il est possible que Pierre-Jean Luizard, qui lui est un vrai spécialiste de l'Irak, ait raison contre cette hypothèse. Mais ce qui est intéressant, en tout cas, c'est la combinatoire entre le principe Oumma, le principe et le principe ethno-national, ethno-confessionnel national, tel qu'il a été défini.
Alors merci pour vos deux exposés. J'aurais une question qui s'adresse à vous deux, mais peut-être plus à Bernard de Barbieux, parce que vous en avez parlé assez brièvement. c'est la notion, ou je ne sais pas si c'est qu'une notion, c'est une réalité des villes-mondes. C'est-à-dire ces grandes villes qui concentrent une quantité extraordinaire de services, qui sont hyper connectées entre elles. Y a un livre que j'ai parcouru d'un chercheur indien qui s'appelle Parakana, qui parle lui de connectographie, et qui dit que c'est les villes sont le futur de la globalisation. Et j'avais une question un peu générale par rapport à ce qui a été dit sur l'État-nation comme modèle de développement de la globalisation. Est-ce que les villes sont finalement, parce qu'elles ont un territoire qui est évidemment bien différent des États, est-ce que les villes seraient des agents finalement des États ou plutôt une vraie concurrence?
Ok. Il y a plein de choses à dire là, sur le sujet. Je vais faire peut-être une addition de constats en espérant que ça fasse sens une fois que je les ai additionnés. Premier constat, Singapour. Une ville, une cité-État absolument étonnante dont on pensait au début du XXe siècle et même encore au milieu du XXe siècle qu'elle avait rigoureusement aucun avenir, parce que l'avenir pour les villes, y compris les villes portuaires un peu importantes, ne pouvait exister que dans le cadre d'États de nations consistants, donc elle aurait pu être éventuellement une ville malaisienne parmi d'autres, mais pas davantage. Et puis elle s'est avérée être une ville extrêmement performante en s'inspirant beaucoup du modèle de Hong Kong qui a une autre trajectoire territoriale comme vous le savez, mais l'une comme l'autre ont bien montré qu'on pouvait exister et même être des acteurs de la mondialisation absolument important en étant justement des villes sans territoire. Ce qui est une sorte de pied de nez fait à tout ce que l'on pouvait imaginer encore une fois de la puissance des États-nations dans un système d'États-nations par lequel on pensait le monde très largement jusqu'à la fin du XXe siècle. Et justement, elles profitent, ces villes, ces cités-États, elles profitent véritablement d'un système d'États-nations qui justement est moins strictement territorialisé qu'il ne l'était auparavant, même si encore une fois, il est extrêmement, extrêmement actif. Autre exemple, Londres. Vous avez insisté tout à l'heure justement sur le tournant néolibéral et puis l'invention de la city moderne dans les années 80. Moi, je suis extrêmement frappé de voir à quel point Londres se détache du Royaume-Uni, se détache de l'Angleterre. Économiquement parlant, le système de production londonien de façon générale et en particulier le système bancaire sont très spécifiques à Londres avec très très peu de connexions avec les régions environnantes, alors que Londres était une vraie capitale avec son vrai hinterland, avec l'Angleterre à sa botte tout entière. Londres se détache économiquement et politiquement. Rappelez-vous les résultats du Brexit, on voyait très très bien que quelque part la sensibilité politique de la majorité des Londoniens n'était pas celle du reste de l'Angleterre. Donc on commence à avoir des clivages politiques qui sont significatifs et qui font adopter à ces villes, alors quand on dit ville, il faudrait être plus précis, hein, les acteurs économiques, les électeurs, on ne peut pas tirer les mêmes conclusions sur tout, mais des trajectoires politiques et économiques qui semblent diverger entre certains types de villes et le cadre stato-national dans lequel elles avaient pu s'épanouir ou être rattachées. Autre exemple, mais ça c'est pour l'anecdote, hein, Genève. Vous savez tous à quel point la question du rattachement de Genève à la Suisse en 1815 formellement était une vraie discussion, ça paraît une évidence avec le recul, et quelque part la question se serait posée en 2015, je ne suis pas sûr que Genève aurait rejoint la Suisse, parce qu'aujourd'hui Genève pourrait exister, même si c'est minuscule par rapport à Singapour et Londres, pourrait exister comme petite ville-monde indépendamment de la Suisse, parce que je pense qu'elle n'a plus besoin de la Suisse aujourd'hui. D'ailleurs, vous vous en souvenez peut-être, au moment de la votation du 9 février, il y avait quelques personnes qui se sont amusées, notamment un de mes collègues de l'université de Genève, Nicolas Levrat, a publié un papier dans le Temps, mais il n'était pas le seul à dire ça, c'est le moment ou jamais que Genève demande son indépendance et se sépare de la Suisse, parce que Genève a voté comme Bâle et comme Zurich, c'est-à-dire contre l'initiative, alors que la majorité de la Suisse a voté pour l'initiative. Donc je pense qu'on voit apparaître toute une série de trajectoires politiques qui semblent diverger et simultanément une sorte de réorganisation réticulaire, je reprends la figure du réseau que vous évoquiez tout à l'heure, des villes entre elles, à la fois parce qu'elles échangent énormément entre elles, notamment pour ce qui est l'économie bancaire ou l'économie portuaire, mais aussi parce qu'elles sont en train de se constituer comme un lobby politique. Alors vous le savez pour la Suisse par exemple, parce que l'association des villes suisses, même si encore une fois les villes suisses sont modestes, commencent à peser d'un sacré poids dans la vie politique suisse, hein, au détriment du système cantonal, hein, et de l'équivalence des cantons. C'est une évolution que je trouve très spectaculaire et qui est tout à fait récente. Mais au niveau mondial, vous avez entendu parler probablement de la mise en place de ces associations de grandes villes du monde. Il y a eu un rassemblement à Paris il n'y a pas très très longtemps, l'initiative de la maire de Paris, qui justement commence à tenir un discours qu'on entend de plus en plus souvent, comme quoi les solutions à la crise et les solutions aux problèmes, les États sont plus capables de les donner, mais ce sont les villes qui peuvent les donner. C'est de la pure rhétorique politique, hein, parce qu'évidemment, ce n'est pas le changement d'échelle qui peut changer nécessairement fondamentalement à la fois le diagnostic des problèmes et puis leur résolution. Vous connaissez peut-être aussi un peu Benjamin Barber, qui s'était rendu très très célèbre à une époque avec son texte tout à fait intéressant et stimulant d'ailleurs, hein, sur McDonaldisation et djihad du monde, et qui posait bien cette question des identités dont on parle beaucoup. Allez voir sur internet si vous ne l'avez pas vu la dernière vidéo qu'il a faite justement sur ça s'appelle un truc du genre comment les grandes villes peuvent solutionner les problèmes de la planète. Et il se fait l'avocat de, ou quelque part l'idéologue de ce que disait Anne Hidalgo il y a à peu près un mois. Les villes sont aujourd'hui le cadre à la fois politique et territorial qui, en fonctionnant en réseau, peuvent résoudre les problèmes du monde. Donc il me semble que ça part un peu dans tous les sens, et c'est là-dessus que vous m'interpelliez. Je ne suis pas encore sûr que ça fasse totalement cohérence et que ce soit véritablement quelque chose comme une alternative. Je ne pense pas, parce qu'encore une fois, je crois que le système des États-nations se porte bien. Simplement, ça vient compléter et compliquer peut-être ce système.
Voilà. Alors, pour des raisons de temps, j'ai trois demandes de questions. Donc, ce que je vais proposer, c'est que vous les posiez successivement et ensuite les orateurs à la table répondent de façon groupée à ces trois questions. D'abord, Antoine Chollet, Hélène Burga et puis Patrick Ernst.
Une question, je suis d'accord avec ce que j'ai entendu. Benjamin Barber avait écrit un livre il y a quelques années qui s'appelle « Si les maires dirigeaient le monde ».
C'est le titre exact, merci.
Et donc, qui est paru en 2012, 13, quelque chose comme ça. Et où précisément, il reprend cette vieille figure des villes comme lieu de la démocratie. On en parlait hier.
Mm-hmm. Et cité.
Hélène. J'aurais juste une question pour Jean-François Bayard à propos du début de la présentation où ça a été mentionné l'idée de nation comme produit du colonialisme. Et je voulais savoir sous quelle modalité en fait vous pensez cette corrélation-là, parce que je vois plusieurs manières de le penser, donc je voulais juste la précision à ce niveau-là.
Oui, une question à Jean-François Bayard. Il va être difficile de sortir de l'ornière du national-libéralisme. Surtout si on sait que la puissance d'aliénation de ce système nous engage tous dans un avenir assez difficile à imaginer. Alors la question, c'est de savoir d'où pourrait venir une force oppositionnelle, ce national-libéralisme. Et l'autre question, c'est alors quelle est la place des intellectuels, vous qui avez passablement étudier la nouvelle gestion publique dans l'université, quelle est la place des intellectuels par rapport à l'imaginaire de cette force oppositionnelle?
Voilà, alors je vous laisse répondre, ce sera le bouquet final. Et ensuite on prendra congé, vous. 3-5 minutes, mais pas plus. S'il vous plaît, entre les deux.
Vous, je crois. Allez-y. Non, les deux questions, les deux dernières questions étaient pour vous.
Bon, on va. Pardon. Bon, nation produit du colonialisme. Il y a la reproduction ou la greffe de la nation, par exemple dans les sociétés africaines ou asiatiques, etc., s'effectue sur plusieurs plans. On va dire qu'elle s'effectue sur le plan des forces productives, si on continue à parler marxiste. Non, vous vouliez intervenir. Oui. Oui, mais j'entends bien. Mais par rapport à l'idée de nation, c'est également au niveau des forces productives, parce qu'on va parler, y compris à l'époque coloniale, de l'économie camerounaise, ou donc l'ancrage dans le système capitaliste mondial est médiatisé par cette notion, par cette idée d'économie nationale. On sait bien que ça ne marche pas comme ça, d'un point de vue économique, n'empêche que... vous savez que Paul Venn, l'historien Paul Venn, ricanait sur ces Romains qui se pensaient, dont l'économie morale était l'autarcie, alors que l'économie politique réelle de leur empire reposait sur la prédation, le commerce de longue distance, l'esclavage, etc. Bon. Donc il y a ce plan d'appropriation, si vous voulez, qui est important. Ensuite, le cadre territorial, c'est-à-dire que il y a toute une série d'interactions
y compris d'ailleurs l'interaction de la conscience ethnique, qui est un pur produit de la colonisation, qui s'effectue dans ce cadre territorial qui, de plus en plus, est pensé comme national, y compris par, bien entendu, les colons, par exemple les colons kényans ou les pieds noirs en France, en Algérie française, mais également par les administrateurs des colonies. Alors, les administrateurs des colonies, c'est un peu plus compliqué parce qu'ils bougent d'un territoire à l'autre. Hein, mais ils ont quand même, ils développent une forme d'empathie avec leur territoire, avec certains de leurs territoires, bon, au point de se guinéiser ou de se mauritaniser. Bon. Mais naturellement, l'essentiel, c'est comment... des élites, alors pardonnez-moi, je vais être politiquement assez incorrect, mais comment des élites qui très largement ont collaboré avec le colonisateur vont progressivement s'ériger en élites nationalistes qui vont s'approprier ce cadre territorial et qui vont le décliner sur le registre de la revendication nationaliste de recouvrement de la souveraineté. Et ces mêmes élites collaboratrices érigées en élite nationale vont gérer ces États indépendants sur un mode de nationalisme économique éventuellement socialisant. Mais ce sont les mêmes qui ensuite vont réussir leur conversion néolibérale et qui vont se privatiser à elles-mêmes ou à leurs petits-enfants ou petits-frères, etc., les meilleurs actifs de l'économie nationale, exactement comme l'ont fait les communistes polonais ou russes. Hein. Il n'y a strictement rien de particulièrement africain dans cette histoire. Donc vous voyez, et puis on pourrait évidemment, il y a aussi toute une appropriation, on va dire, cognitive, enfin le mot est peut-être un peu emphatique, mais comment par exemple vous avez toute une invention de la géographie nationale, tout cet imaginaire géographique de la nation, les fleuves, les montagnes, etc., tout ce que nous connaissons évidemment en Europe, mais qui se retrouve en Afrique subsaharienne. Donc c'est un processus complexe, mais il est extrêmement difficile d'imaginer, de penser l'idée nationale si on la déconnecte du moment colonial. Et l'idée nationale est très largement appropriée et partagée par les Africains. La conscience nationale, moi je suis navré, elle se porte très bien en Afrique subsaharienne. Si vous prenez le Congo, Kinshasa, ce territoire aurait dû éclater depuis belle lurette, vous n'avez plus de route, vous n'avez plus, et l'essentiel de la population vit aux frontières, et bien le nationalisme congolais, il existe. Profondément ancré dans... Bon. Donc la nation se porte très bien en Afrique subsaharienne à partir du moment où on comprend que ce qu'on appelle le tribalisme vulgairement, la conscience ethnique, n'est pas le contraire de la nation, mais est un mode d'appropriation de la nation. Il y aurait beaucoup à dire, mais j'ai déjà été trop long. Deuxièmement, je crois que sortir du national-libéralisme, pour reprendre le terme du petit bouquin que j'ai publié en 2012, c'est effectivement une question compliquée mais très angoissante parce que il faut savoir qu'aujourd'hui nous avons quand même tous, nous Européens, des cornes de rhinocéros qui nous sont poussées sur le bout du museau et que nous acceptons aujourd'hui des choses inimaginables il y a 20 ou 30 ans. On parle beaucoup de la violence terroriste à juste titre, il ne s'agit pas du tout de la minimiser, mais enfin il faut savoir quand même que la violence d'un État et d'une Europe conçue comme une machine à reflux ethnique cause quand même tous les deux ans la mort de 15 000 personnes. Hein. C'est-à-dire que le dispositif anti-immigration en Europe produit aujourd'hui 15 000 morts tous les deux ans. Bon. Et c'est une violence d'État à laquelle nous nous sommes peu ou prou habitués et que nous légitimons par nos bulletins de vote depuis une vingtaine d'années. Et apparemment, c'est pas fini. Bon. Alors, que peut faire l'intellectuel par rapport à ça ? Il se sent effectivement extraordinairement démuni. Alors moi, ma position, c'est effectivement une position foucauldienne. C'est que je me définis pas du tout comme un intellectuel engagé ou de gauche à la française traditionnelle, mais comme un intellectuel spécifique, ce que Foucault qualifiait d'intellectuel spécifique. C'est-à-dire que je prends parti au débat public
sur la base de ce que, à tort ou à raison, je considère être mes compétences universitaires. C'est-à-dire que, par mes recherches, j'arrive à un certain nombre de conclusions qu'effectivement, j'expose de manière très engagée, comme on dit, enfin, éventuellement très polémique, mais moi, je trouve que la polémique est un instrument de compréhension, c'est un instrument d'intelligence. Bon. Et je le fais du point de vue du cynisme heuristique. C'est-à-dire, je ne pense pas que... L'intellectuel, le chercheur, c'est comme un radiologue. Son job, c'est d'essayer de donner l'image des poumons la plus précise possible. Il n'est pas là pour dire « Ah, mais mon ami, vous avez trop fumé » ou « Il faut faire ceci » ou « Il faut faire cela ». Mais encore faut-il donner une image exacte. Et c'est ce que j'essaye, par exemple, de faire en analysant ce processus de passage de l'Empire à l'État-nation et en tenant des propos qui, effectivement, peuvent être extraordinairement choquants. Bon, par exemple, quand je rappelle ce que Victor Klemperer écrivait à la fin des années 30 et qu'il n'a cessé d'écrire tout au long de la Seconde Guerre mondiale au cœur même de l'Allemagne nazie, où il était resté, les sionistes sont répugnants, ils pensent exactement comme les nazis. C'est une phrase qui aujourd'hui est insupportable, parce qu'évidemment nous vivons cette histoire à travers le prisme de la Shoah. Mais lui n'était quand même pas le moins bien placé pour savoir ce qu'étaient les nazis. Et c'est quand même une position à laquelle il s'est tenu. Et je crois que par exemple, modestement, le rôle d'un intellectuel spécifique, c'est d'être un empêcheur de penser en rond, de pratiquer cette forme de cynisme heuristique et effectivement de s'inscrire en faux contre les cornes de rhinocéros. Bon, j'en prendrai un autre exemple. Aujourd'hui, vous avez une espèce de grand bêlement identitaire en France autour de la notion de laïcité. Vous me pardonnez l'expression, mais il n'y a pas d'autre mot, sur des conneries comme le burkini, etc. Je crois que le rôle de l'intellectuel spécifique, c'est d'une part de rappeler que nous sommes en train de transformer en France l'idée laïque, le substantif n'existe pas dans la loi de 1905, l'idée laïque de la séparation des cultes de l'État, qui est une idée qui a été mise en avant pour émanciper la République d'une religion dominante, socialement dominante. C'était la religion de la monarchie, c'était la religion de l'aristocratie, etc. Bon. Donc nous sommes en train de transformer cette idée de l'idée laïque de séparation des cultes et de l'État en religion nationale, la laïcité, et une religion nationale qui est ethno-confessionnelle. Donc on nous invente une identité judéo-chrétienne, comme dit Shlomo Zand, ma grand-mère aurait été très heureuse de savoir qu'elle est morte en tant que judéo-chrétienne, elle est morte à Auschwitz, et on est en train d'identifier la République française au laïcisme et de naturaliser ce laïcisme alors que c'est une religion nationale. Donc mon prochain livre s'intitulera « Les salafistes de l'identité, laïcisme versus djihadisme ». Et aujourd'hui, quelqu'un comme Sarkozy a exactement le programme de Daesh. C'est assez frappant. C'est-à-dire que Daesh veut éliminer la zone grise, c'est leur terme, entre les croisés et les musulmans. De la même manière, dans une interview du début du mois d'août ou de la fin du mois de juillet, Sarkozy entend éliminer la zone grise, c'est extraordinaire, il reprend le terme, entre ce qu'il nomme maintenant les Gaulois, en bon salafiste, et tous les gens qui, de peu ou de loin, de près ou de loin, ont des relations avec le djihadisme, étant entendu que le djihadisme, on peut en avoir aussi 50, ou le salafisme, on peut en avoir 50 interprétations différentes. Donc je pense que notre rôle modeste, bon, mais je suis un intellectuel désespéré, je sais très bien que ça sert à rien, et aussi de rappeler que la vraie question qui se pose en Europe aujourd'hui, c'est la question du travail, c'est pas la question de l'identité. On sait à peu près tous ce qu'on est, ce qu'on a envie d'être, etc. Et je crois qu'on peut trouver une identité assez facilement. Trouver un emploi, c'est beaucoup plus compliqué en France. Et non seulement il y a la souffrance de ceux qui n'ont pas de travail, mais il y a la souffrance de ceux qui travaillent. Et donc je pense que la vraie question sociale aujourd'hui, c'est la question du travail, à la fois pour ceux qui n'en ont pas et pour ceux qui en ont. Nous sommes beaucoup plus dans un burn-out social que dans un burn-out identitaire, me semble-t-il.
Bien. Grand, grand, grand merci. Félicitations aux orateurs. Je remercie donc vivement, chaleureusement Bernard de Barbieu et Jean-François Bayard. Je rappelle, je ne l'ai pas encore dit, mais je le rappelle quand même, que sur la table, vous trouvez des ouvrages de nos deux auteurs, ceux que cela intéresse. D'en acquérir. Et puis, par ailleurs, donc, il y a, comme hier, un repas qui est préparé par la maison de quartier, exactement aux mêmes conditions qu'hier. Donc, à 12 francs le repas. Et évidemment, nos conférenciers, s'ils veulent se joindre à nous, sont invités. Cela va de soi. Voilà, c'est-à-dire, sont invités par le groupe Bourdois, évidemment. Voilà. Donc, encore merci et nos plus vives félicitations aux orateurs.
Merci à vous.
Merci.